Vraiment, encore une fois aujourd'hui, Annie, elle a choisi donc pour introduire le premier verset. C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Et c'est un verset qui est extrait d'une rencontre entre Jésus et un jeune homme. On connaît bien cette rencontre-là, c'est un jeune homme bien, sous tout rapport, on pourrait dire. Et en pensant à ce jeune homme, j'ai pensé à un autre jeune homme, plus contemporain de nous. C'était un jeune donc du XVIIe siècle, c'est Pascal. Je pense que vous connaissez Pascal. C'est un génie universel. Il était doué d'une intelligence exceptionnelle. Il avait été élevé dans un cadre religieux. Et sa passion, la passion de Pascal, c'était de démontrer les choses. Et en particulier, il avait démontré que l'air a un poids. Et à l'époque, on disait, mais il est complètement fou, hein. Il avait fait une expérience fantastique avec un baromètre. Il était monté en haut d'un sommet du Massif central. Il avait montré que l'air, effectivement, avait une pression, avait un poids. Et pour lui, c'est une passion. Il fallait démontrer. Et il a été élevé dans un milieu religieux. Il se disait, je vais parvenir à démontrer que Dieu existe. Donc il a beaucoup réfléchi. Et puis il s'est retrouvé devant une impossibilité. Il n'arrivait pas. Et alors, il a eu une inspiration, une sorte de pari, ce qu'on appelait le pari de Pascal. Il s'est dit, je ne peux pas démontrer que Dieu existe. On me dit qu'il existe. Eh bien, je vais faire un pari. Mais ce pari, il était simple. Si je dis que Dieu existe, j'ai rien à perdre et tout à gagner. Si je dis que Dieu n'existe pas, là j'ai tout à perdre. Alors il dit, j'ai le pari que Dieu existe, et puis on verra bien. Et très rapidement, il y a un événement dans la vie de Pascal extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va avoir une révélation de Dieu. Et Dieu va se révéler à lui, pas tout de suite, hein, mais dans le cours de sa vie, Dieu va se révéler à lui, dans un moment assez extraordinaire, une vision de flamme de feu, etc., et où il va se dire, j'avais bien fait de parier que Dieu existait, parce que j'ai tout gagné en faisant ce pari, le pari de Pascal. Je reviens donc au verset que Annie a inscrit tout au début, ici, que c'est impossible aux hommes. Alors, si je reprends Pascal, je pourrais dire c'est impossible aux hommes de démontrer que Dieu existe, mais c'est tout à fait possible à Dieu de le faire. Et le jeune homme, donc, qui a cet entretien-là avec Jésus, visiblement, c'était quelqu'un qui, j'allais dire, on ne le sait pas, mais on peut supposer qu'il avait fait le pari que Dieu existait. Et il avait organisé sa vie de manière à vivre comme Dieu le demandait, comme il l'entendait dire, je pense à la synagogue où il allait, pour écouter la lecture de la parole de Dieu, pour écouter sabbat après sabbat, samedi après samedi chez les Juifs, écouter la lecture des 10 commandements, les deux tables, la première table des commandements concerne la relation à Dieu, la deuxième table concernait la relation avec le prochain, et sabbat après sabbat, il entendait lire ses commandements, et il avait décidé de vivre comme Dieu le demande. Mais il avait une question. Question qui est pareille, qui était indémontrable aussi, difficile à accepter. Et cette question, il va la poser à Jésus. Il vient à Jésus et il lui dit, toi qui es un bon enseignant, toi qui possèdes une sagesse, il dit à Jésus, maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? C'était son problème. C'était son problème. Et Jésus va lui répondre. Et je vais reprendre le texte là. Je lis dans la Bible en français courant toujours. Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, ou dans la vie, la vraie vie, obéis aux commandements. Ça tombe bien pour lui, hein. Et il pose la question à Jésus, il dit, mais quel commandement? Et Jésus lui répond, il va simplement, Jésus va lui réciter la deuxième table des commandements, donc la relation avec les autres. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Alors le jeune homme lui dit, maître, j'ai obéi à tous ces commandements-là. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Et Jésus lui répond, si tu veux aller jusqu'au bout de ta démarche, dans d'autres traductions on dit si tu veux être parfait, si tu veux aller jusqu'au bout de ta démarche, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le royaume des cieux. Et puis reviens, et suis-moi, modèle ta vie sur la mienne. Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il était extrêmement riche et il avait de très grands biens. On le laisse partir, et Jésus se tourne vers ses disciples. Il leur dit, je vous le déclare, et ça, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, d'hériter la vie éternelle. Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, mais qui donc peut être sauvé et entrer dans la vie éternelle? Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Donc c'est le premier texte que Annie a affiché. Oui, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Ce jeune homme, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher? Et dans un autre texte, que dans l'évangile de Marc, on dit que Jésus a eu une sympathie, et on utilise le mot « il l'aima ». Il a éprouvé une grande sympathie pour ce jeune homme. Parce que, tout simplement, ce jeune homme a fait tous ses efforts pour hériter la vie éternelle. Et puis, il a des doutes. Il a des doutes. C'est pour ça qu'il vient voir Jésus. Il lui dit, mais dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Vous voyez qu'il répond, j'ai fait tout ça, tout ce que Jésus lui demande. C'est un garçon qui est absolument en ordre avec son prochain. il a mis en pratique tous les commandements concernant son prochain. Et Jésus l'interroge là-dessus. Pour les commandements, moi j'aurais pas fait comme Jésus. Moi j'aurais commencé par le premier, par les premiers. Hein, j'aurais demandé au jeune homme, je lui aurais dit, mais attends. Hein? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si tu veux entrer dans la vie éternelle? Eh bien, obéis au commandement. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu dois respecter le sabbat, etc. Hein? Les premiers commandements. Pourquoi Jésus ne lui a pas demandé ça? À votre avis, qu'est-ce que ce jeune homme lui aurait répondu? As-tu observé tout ça? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Oui, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu respecteras le sabbat. Oui, il aurait dit oui, et il aurait menti. Il aurait menti. Et Jésus, qui est un fin pédagogue, psychologue aussi, il ne veut pas mettre ce jeune homme dans la bara. Il ne veut pas mettre ce jeune homme dans la bara. Il lui a demandé chez lui ce qui était positif. Il a demandé, est-ce que tu aimes en gros, est-ce que tu aimes ton prochain? Et ça, le jeune homme pouvait dire oui, et il disait la vérité. Mais Jésus ne lui demande pas son rapport à Dieu. Parce que ce jeune homme, il a dans sa vie un autre Dieu. Et ce Dieu qu'il a, c'est, excusez le terme d'aujourd'hui, son fric, sa fortune. Parce qu'on nous dit ici qu'il avait de très grands biens. Et en fait, c'était ça qui était son Dieu. Et Jésus a touché aussi ce point faible chez lui. Et vous avez vu que ce jeune homme-là est tout triste parce qu'il a de grands biens. Je reviens un petit peu à Pascal du début. Pascal a reconnu plus tard qu'il était extrêmement riche en intelligence. C'était un génie. Et il a reconnu que cette richesse-là, chez lui, avait été un obstacle à sa relation à Dieu. D'où ses doutes, hein, et d'où ce pari. Il était riche de son intelligence. Je peux être riche de ma connaissance. Je pourrais être riche, j'allais dire de mon corps. Pas le mien, bien sûr. D'accord? Même quand on est bien bâti, quand on est jeune aussi, on se dit, je suis quelqu'un. Mais ça peut être ça. Ça peut être cette richesse-là. Et on se croit, finalement, insubmersible. Et on a vu dans ce que nous a dit Annie dans la suite, hein, et il suffit d'un petit grain de sable pour que tout ça s'écroule. Oui, on peut être riche de beaucoup de choses, non seulement de biens matériels, mais aussi de tas de choses qui font que, voilà, on n'a pas besoin de Dieu. Et Jésus dit au jeune homme, il lui dit, va, vends, débarrasse-toi, tout simplement, mets ce que tu as au second plan. Hein? Il lui dit, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens, puis modèle ta vie sur la mienne. Hein? Jésus lui dit. Et le jeune homme, lui, ce qu'il possède, sa richesse, est plus importante que sa relation à Dieu. Vous voyez, Jésus dit ensuite, il dit à ses disciples qui s'étonnent et qui se disent, mais alors attends, c'est un gars bien celui-là. Alors même celui-là, il ne méritera pas de la vie éternelle. Et Jésus dit, mais attends, hériter la vie éternelle, c'est impossible aux hommes. Mais tout est possible à Dieu. Il l'a rappelé. Alors c'est impossible aux hommes. Ça veut dire que ce garçon qui avait tout bien fait, ben, voilà, il n'est pas sur la voie de la vie éternelle, sur la voie du paradis, comme a dit Annie tout à l'heure. Oui, c'est, voilà, mais tout est possible à Dieu, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Alors, tout est possible à Dieu, c'est impossible aux hommes, pour la simple raison, ça nous a été rappelé tout à l'heure, nous a de simple raison que... On va revenir un petit peu aux origines, tiens, ça va nous éclairer peut-être. C'est bon de se rappeler quelquefois. Les origines, qu'est-ce que c'est les origines? De la relation de Dieu et des hommes. Alors, un petit rappel. Dieu crée la nature, et puis ensuite, quand la nature est créée, il crée l'homme, les êtres humains. Et il les place dans le paradis, le jardin d'Éden, et il dit aux hommes, voilà, vous êtes là, tout est à votre disposition, vous pouvez profiter de tout, mais quand je vous ai créé libre, je vous propose un choix, vous aurez un choix à faire ou à ne pas faire. Et ce choix, il est dans le récit de la Bible, on nous dit qu'il s'agit du fruit d'un arbre que l'homme, Dieu dit, n'en mange pas, parce que si tu en manges, tu mourras. Et ça veut dire tu mourras, c'est-à-dire tu ne pourras plus continuer à vivre éternellement avec Dieu. Donc tu perdras cette possibilité de vivre éternellement avec Dieu. Alors ne mange pas. Tu as tout. Mais tu as tout. N'en mange pas. Vous connaissez la suite? On se connaît nous aussi, hein? C'est toujours tentant, le fruit défendu, comme on dit, hein? Non? Oui, je trouve, hein, pour moi, hein, c'est toujours tentant, le fruit défendu, et vous connaissez la suite, l'homme. Alors les hommes, ils disent, c'est la femme, hein, d'accord? D'accord? Ils disent, c'est elle, hein, qui a cueilli le fruit, qui l'a goûté, puis qui a dit à son homme, c'est bon, vas-y, et lui, gros benet, ben oui, il a suivi, d'accord, de ce que nous raconte la Bible. Et après, conséquence, on connaît la conséquence, c'est que, voilà, l'homme a fait un choix, il était libre, il a choisi. Et puis, conséquence, eh bien, le paradis, voilà, ils ont été exclus de la présence de Dieu et ils sont privés donc de cette éternité avec Dieu, de cette présence de Dieu, et ils vont sortir de ce jardin. Alors on connaît la suite, hein, c'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Voilà, tu as choisi, c'est ton droit. Voilà. Mais ça nous a été rappelé aussi, Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas les êtres humains parce que c'est sa créature, sa création, il les aime et son désir va être de toujours les tout faire pour les ramener à lui. Parce que Dieu désire que les hommes vivent pour l'éternité avec lui. S'ils le veulent bien, toujours, hein, Dieu a créé des êtres humains libres et l'être humain est libre. Dieu ne lui impose rien. Simplement, il lui propose. Alors, vous savez que la Bible nous raconte, dans la première partie, dans l'Ancien Testament, la Bible nous raconte toutes les tentatives de Dieu pour que les êtres humains se réconcilient avec lui. Alors, il y a beaucoup de récits là-dessus. Dieu va proposer donc aux êtres humains de faire des sacrifices pour se réconcilier avec Dieu, avec lui. Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit que toutes les tentatives de Dieu échouent dans la majorité des cas. C'est-à-dire que les êtres humains continuent à faire les mauvais choix. Et là, on se reconnaît bien. Hein, les êtres humains n'ont pas beaucoup changé. Et Jésus dit à ce jeune homme, qui pourtant fait des efforts, il dit à ce jeune homme, non, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Et alors ce tout est possible à Dieu, eh bien c'est, qui nous a été rappelé aussi tout à l'heure, c'est une personne. C'est-à-dire que Dieu finalement, c'est son dernier joker, on dirait. Ce dernier joker de Dieu, c'est Jésus. Voilà. Dieu décide de demander à Jésus, son fils unique, de venir vivre parmi nous, de se mettre à notre place et de prendre sur lui tout ce qui nous sépare de Dieu et tout ce qui nous rend impossible l'entrée dans la vie éternelle et dans le paradis. Et Dieu demande à Jésus de prendre à sa charge tout ce qui nous empêche d'entrer en relation, en communion avec Dieu et de vivre la vie éternelle avec lui. On connaît la suite, hein, c'est connu, Jésus accepte, il vient vivre comme nous et il accepte d'être condamné à notre place. C'est-à-dire il accepte de payer ce que, voilà, tous nos mauvais choix. Vous savez où ça va le conduire, donc à la mort, à la croix, et voilà, Jésus meurt chargé de tout ce qui nous sépare de Dieu, mais voilà, Dieu accepte ce sacrifice de Jésus, et Jésus revient à la vie, c'est Pâques, il renaît, il revient, il revit, et il revit débarrassé de tout ce qui nous séparait de Dieu. La preuve, c'est que Jésus rejoint Dieu dans la vie éternelle. Dieu est saint et ne supporte pas, ne peut pas supporter tout ce qui est péché. Et Jésus rejoint Dieu, signe que ce qu'il a fait est parfait. Et Jésus ouvre la porte. Et à ce moment-là, la formule que Jésus dit au jeune homme, après ce que Jésus accomplit, ça serait plutôt « Tout est possible aux hommes ». Avant Jésus, c'était impossible. Mais depuis Jésus, tout est possible aux hommes. Tout. Et il me suffit de croire. Alors Annie tout à l'heure parlait de la grâce. La grâce, c'est cette faveur imméritée, hein, je crois que tu as dit. Une faveur imméritée. Oui. J'ai rien à faire. Ah, c'est ce qu'on appelle la foi. Je vais pas revenir à Pascal, mais Pascal s'est posé aussi la question de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et il a avoué son incapacité d'expliquer. C'est le fait de croire, d'avoir la certitude que Jésus a bien fait tout ce qu'il fallait pour m'ouvrir la porte de la vie éternelle. Fait qu'un passage dans l'Apocalypse où on voit Jésus qui frappe à la porte. Le texte dit « Voici, je me tiens à la porte. » J'ajoute « De ton cœur. » C'est pour nous aussi aujourd'hui. Hein? « Voici, je tiens à la porte de ton cœur et je frappe. » Je dis toujours Jésus d'une politesse extrême. Hein? D'accord ? Et il dit, si tu ouvres la porte, je vais entrer chez toi. Et puis on va souper l'un et l'autre, ensemble, l'un en face de l'autre. Maintenant, si je n'ouvre pas, il ne va pas falloir défoncer la porte. D'accord ? Jésus n'est pas un extrémiste. Propose, il frappe. Donc aujourd'hui, Jésus frappe à la porte des cœurs. Et la foi, c'est croire que Jésus vient à la porte de notre cœur et frappe, et qu'il a tout fait pour que je puisse ouvrir cette porte qui m'ouvre l'accès au royaume de Dieu, l'accès à la vie éternelle. C'est extraordinaire. Oui, tout est possible aux hommes aujourd'hui. Tout est possible. Dans le respect de notre liberté. Et Dieu est prêt à nous recevoir aujourd'hui quiconque croit. Ce jeune homme, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait fait beaucoup de choses, d'accord ? Il a fait beaucoup de choses, ce jeune homme, beaucoup d'efforts. Hein? Moi, je ne sais pas si je pourrais répondre affirmativement à tout ça. Hein? Et lui avait fait des efforts. Et Jésus lui dit, non, c'est pas ça. Non, il n'y a rien à faire. Hein? Il n'y a qu'à croire que Jésus a tout accompli. Il n'y a rien à faire. Alors vous allez me dire, alors, on ne fait rien ? Non, on ne fait rien pour. D'accord ? On ne fait rien pour. On ne fait rien pour hériter la vie éternelle. Jésus, c'est lui qui a tout fait. Mais une fois que j'ai compris ça, que j'ai ouvert la porte de mon cœur, quand Jésus frappe à la porte de mon cœur et m'interpelle, à ce moment-là, quand j'ai ouvert la porte, que Jésus est entré dans ma vie, j'ai beaucoup à faire parce qu'il est entré dans ma vie. D'accord ? Ça, c'est important. J'ai rien à faire pour, hein, pour hériter la vie éternelle. À croire que Jésus a tout fait pour. D'accord ? C'est Jésus qui l'a fait. Mais une fois que j'ai ouvert la porte, que Jésus est entré chez moi, qu'il reste avec moi, parce que Jésus dit cette promesse. Quand Jésus entre, il ne va pas entrer, manger et puis se sauver. Non, Jésus entre et il reste. Vous connaissez cette parole ? Je reste avec vous jusqu'à la fin de votre vie, quand vous ouvrez la porte de votre cœur. Jésus reste avec nous, en nous. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire parce que Jésus habite en nous. Beaucoup de choses. Que Jésus lui-même résume dans les deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et quand Jésus est entré dans ma vie, entre dans notre vie à nous, nous avons beaucoup de choses à faire, parce qu'il est entré dans ma vie, nous avons beaucoup de choses à faire, mais je ne suis pas tout seul pour les faire. J'ai quelqu'un qui est avec moi, qui est chez moi, qui habite chez moi, et qui m'aide. Je pense que vous êtes comme moi, et quand je ne peux pas les faire, ou je ne les fais pas volontairement, mais il est quand même toujours là. Et Jésus dit, quand tu ne fais pas ce que tu devrais faire, il y a un mot, c'est le mot « repens-toi », c'est-à-dire reconnais-le, demande pardon, et puis voilà, je te pardonnerai. Ah oui, mais Seigneur, c'est tellement souvent ça. Tu vas tout le temps me pardonner ? Oui. Oui. Jésus dit, je pardonne. Alors, dans la Bible, on dit 7 fois 70 fois, c'est-à-dire à l'infini. Pardonne à l'infini. Et je vous l'ai certainement déjà dit, il y a tellement de joie dans la vie éternelle, dans le ciel, dit la Bible, quand un pécheur se repent, c'est-à-dire regrette. Il y a tellement de joie dans le ciel. Et je dis, il ne faut quand même pas priver les anges d'être heureux là-haut quand même. Hein? Je crois qu'il ne faut pas hésiter dans quelque chose. On sent qu'on n'a pas fait ce qu'on devait. Moi, je crois qu'il faut sincèrement se retourner et dire, pardon Seigneur. Voilà. Et se dire, il y en a là-haut qui se réjouissent, hein, ils sont heureux là-haut, parce qu'il y a un pécheur qui s'est repenti. Il ne faut pas hésiter, hein, parce que le Seigneur, il est là, il habite en nous. Et c'est pas par ce qu'on fait qu'on hérite la vie éternelle, mais c'est parce qu'on croit qu'on hérite la vie éternelle. Parce qu'on croit que quelqu'un d'autre a fait tout ce qu'il fallait, c'est Jésus. Oui, il y a les deux choses, hein, c'est quand même très important. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Hein, je crois que gardez ça dans votre cœur, et puis si parmi nous, peut-être, Jésus frappe à la porte ce matin, n'hésitez pas à ouvrir. N'hésitez pas à ouvrir. Parce que je vous garantis, c'est un pari gagnant. Vraiment un pari gagnant. Et Pascal l'a expérimenté avant nous, avant moi, et moi je l'ai expérimenté, et c'est gagnant. Alors n'hésitez pas. Parce que non seulement il va rentrer, mais il va rester. Il va nous aider à vivre. Et puis, il y a la perspective de la vie éternelle. On se reverra. Si nous avons ouvert la porte, nous nous retrouverons là-haut. Moi avant vous, bien sûr, pour certains, hein, vu l'âge. Mais peu importe, hein, l'éternel de Dieu, Dieu nous attend dans son royaume. Voilà ce que je voulais vous dire de la parole du Seigneur ce matin. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous tous.